Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin.
Je vous consulte directement.
Le référendum sert-il à quelque chose?
Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu.
J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum.
Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République.
Sud Radio.
9h-11h.
On aurait souhaité qu'il y ait un référendum.
Le grand référendum.
Dimitri Pavlenko.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Sud Radio, Apprendre et Comprendre. C'est parti pour 3 heures d'émission ensemble, le grand référendum. Vous n'avez plus la parole, Sud Radio vous la redonne. Ce matin, est-ce qu'il faut enseigner l'économie et la finance à l'école? Idée qui gagne du terrain parmi ceux qui s'intéressent aux sciences de l'éducation, car force est de constater qu'en matière scolaire, la France a encore des progrès à faire. Dans la dernière enquête PISA de l'OCDE sur l'éducation en 2012, la France arrive dans le ventre mou du classement, avec des résultats en dessous de la moyenne, en particulier en mathématiques. L'école de France fabrique également des inégalités. Sait-elle encore transmettre les connaissances et les compétences essentielles pour participer pleinement à la vie de nos sociétés modernes? Un monde où la compréhension et la maîtrise des outils financiers de base sont devenus indispensables pour se construire un avenir professionnel et personnel. Car l'argent intervient désormais de plus en plus tôt dans la vie des enfants. Or, on enseigne l'économie en France qu'à partir du lycée, beaucoup trop tard, disent certains, qui militent pour l'introduction à l'éducation économique et financière dès la primaire. Mais est-ce vraiment à l'école d'apprendre aux enfants à gérer un porte-monnaie? L'économie doit-elle s'imposer comme un des piliers de l'éducation? Et à plus forte raison, la finance. Plusieurs pays le font sans tabou. La Suisse, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Exemple à suivre ou repoussoir? Alors, faut-il enseigner l'économie et la finance à l'école? On vous pose la question ce matin dans le grand référendum. Évidemment, vous votez sur sudradio.fr, vos commentaires sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Sud Radio sur Twitter. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS, votre message sud, un espace au 71 200, ou bien sûr vous nous appelez 0826 300 300, 15 centimes la minute pour intervenir à l'antenne.
Sud Radio,
Dimitri Pavlenko,
le grand référendum.
Faut-il enseigner l'économie et la finance à l'école? On en parle ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio, Apprendre et Comprendre, avec nos trois invités ce matin. Marine Roussillon, responsable du réseau école du Parti communiste. Bonjour Marine Roussillon.
Bonjour.
Nous sommes en ligne également avec Nelly Gay, consultante internationale, ancienne chef d'établissement. Bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Nicolas Marcel, délégué général de l'association La Finance pour tous. Bonjour Madame Nicolas Marcel.
Bonjour.
Alors précisément, La Finance pour tous, pour vous présenter en quelques mots, association décrétée d'intérêt général, vous travaillez en partenariat avec l'éducation nationale et précisément, vous proposez d'ores et déjà des kits d'apprentissage à la disposition des enseignants pour initier les enfants dès l'école primaire à l'éducation financière. Pourquoi ça vous paraît être aujourd'hui un enjeu crucial pour aider ces enfants à devenir des citoyens capables de participer pleinement à la vie de nos sociétés modernes?
Pourquoi c'est important de faire de l'éducation financière? Ça, c'est la première étape du raisonnement. Il faut que tout le monde améliore son niveau de connaissances et de compétences en finance. Les finances, c'est à la fois les finances personnelles, c'est-à-dire savoir gérer son argent, et c'est aussi la compréhension du monde économique et financier qui nous entoure. Et depuis la crise de 2007-2008, on a senti une vraie appétence des Français pour comprendre ce qui peut modifier le cours de leur vie. Donc, c'est vrai pour tout le monde, et c'est vrai en particulier pour les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est un outil démocratique. L'école est l'outil et l'endroit où se forment tous les jeunes, et donc c'est plus on commence tôt et plus on touche l'ensemble de la population. On veut pas faire du matraquage dès le plus jeune âge, mais de la même manière qu'on apprend à écrire, à lire et à compter à l'école, on peut apprendre à lire, à décrypter une publicité, à compter son argent, et il n'y a aucune raison d'en faire un sujet tabou.
Alors, Pascal, Nicolo, Marcel, le nom de votre association dit déjà beaucoup de choses, la finance pour tous, parce qu'effectivement, la finance est réputée être une discipline un peu particulière, réservée à une élite, car les mécanismes de compréhension sont extrêmement complexes. Vous dites que non, et que ça concerne autant les adultes que les enfants. Quand on parle d'éducation financière, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'il faut comprendre les mécanismes de la bourse dès 5 ans, ou tout simplement savoir gérer un porte-monnaie, comprendre la notion de crédit, etc.?
Vous l'avez dit, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en petit trader, évidemment non. Il s'agit d'apprendre les jeunes et les moins jeunes à faire des choix éclairés. Il y a de plus en plus de décisions qui demandent un choix de la part du consommateur de produits et de services financiers, hein. Quand vous investissez dans une assurance vie, quand vous devez même acheter un appartement, il y a des choses à connaître, des choses à savoir qui impliquent votre argent. Bon. Mais tout implique l'argent dans la vie de tous les jours. Je veux dire, savoir lire une fiche de paye, c'est important parce que ne pas confondre le brut et le net, c'est essentiel. Mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui s'imaginent que le salaire dont leur a parlé l'employeur, c'est celui qu'ils allaient recevoir dans leur porte-monnaie. Donc, ne serait-ce que cette notion très simple de brut et de net et de lecture d'une fiche de paye, c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Bon, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin.
Dès 5 ans, il faut commencer dès 5 ans à savoir lire une fiche de paye ?
Non, mais la fiche de paye, ça peut être au collège qu'on apprend à distinguer le brut du net, parce que ça permet de faire également de la pédagogie sur à quoi servent les impôts, à quoi servent les charges sociales. Si vous expliquez
les cotisations sociales, on va dire.
Ou les cotisations sociales. Bon, ça dépend de quel.
Non, mais c'est intéressant parce que déjà, par exemple, avec rien que ce débat sur les mots recouvre également des notions idéologiques. Il est bon de sensibiliser très tôt à ces débats-là également. Vous pensez pas, Pascal Nicolas Marcel?
Bien sûr. Non, mais ça fait tout à fait partie des enseignements que nous préconisons. Nous avons d'ailleurs fait un ouvrage qui permet aux enseignants de mathématiques de s'approprier ces notions, parce qu'au collège, il n'y a pas d'enseignants d'économie, donc on peut passer par les mathématiques, on pourrait passer par l'éducation civique, l'histoire, la géographie, éventuellement le français. Hein. Bon, mais en tout cas, on a essayé de faire une action à l'égard des enseignants de mathématiques, parce que toutes ces notions de chiffres, évidemment, c'est l'enseignant de mathématiques qui donne les premiers éléments de compréhension. Et donc, on a essayé de leur donner un petit kit qui leur permet de parler de ces sujets, parce que c'est pas leur environnement quotidien.
Alors, vous nous présenterez le contenu de ce kit dans un petit instant. Je me tourne vers Nelly Gay, qui est également avec nous. Bonjour, Nelly Gay.
Bonjour.
Ancienne chef d'établissement, vous vous êtes pris ce fameux PISA-choc. Ce PISA-choc, c'est l'expression consacrée par les Allemands au début des années 2000 lorsqu'ils ont constaté que l'OCDE leur donnait une note très médiocre dans ce fameux classement PISA qui classe les pays en fonction du degré de réussite des systèmes éducatifs. Et les Allemands ont entrepris des vastes réformes de l'éducation dans le tournant des années 2000. Vous l'avez pris de plein fouet également en 2012 lorsque la France recevait cette notation assez médiocre. En fonction des différents critères de ce classement PISA, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, en gros, la France arrive dans le ventre mou du classement des pays de l'OCDE. Vous vous êtes dit, le problème, c'est aussi le contenu des programmes, et vous plaidez, vous aussi, pour l'incorporation d'un cursus en éducation financière, et ce, très jeune, dès l'âge de 5 ans, alors qu'aujourd'hui, l'économie, ça s'apprend essentiellement au lycée.
Tout à fait. Donc, si vous voulez, le choc PISA que la France devrait ressentir cette année, c'est celui qui concerne l'éducation financière. Hein. Donc, vous savez peut-être, la semaine prochaine, 4, 5, 6 novembre, il va y avoir à Paris à nouveau un séminaire de l'OCDE sur ses résultats. Mais dès le mois de juillet, on a su qu'on était très mal classé. Et qu'en ce qui concerne, par exemple, les inégalités dont vous parlez, la France s'est située en 16e position sur 18. Donc, si ça, c'est pas un choc, si les Français ne comprennent pas qu'il s'agit de dire que les enfants des classes privilégiées ont tout à fait accès à cette éducation financière et que les autres n'ont absolument pas accès, hein, on va simplifier un peu, parce que si vous voulez, effectivement, après mes 32 ans de direction d'établissement, je suis un petit peu lasse de cette question. Faut-il du leadership dans les écoles? Faut-il recruter les enseignants autrement? Faut-il? Alors, dès qu'on se place sur ce sujet, à ce niveau-là, on peut se dire qu'on en a pour 15 ans, hein, et je ne blague pas, 15 à 20 ans pour y arriver. Alors, moi, je connais l'activité de Mme Nicolas Marcel, de Finance pour tous. Je connais aussi l'activité de la Fédération bancaire française, de l'association Finance et Pédagogie, les actions de la Banque de France. Donc, si vous voulez.
Donc, il y a quand même des initiatives en France, ce que vous nous dites déjà.
Pardon ?
Il existe aujourd'hui des initiatives en faveur de la promotion de l'éducation financière à l'école.
Tout à fait. C'est pour ça que, si vous voulez, on n'en est pas au début. Mais le problème, c'est un peu, si on veut faire une comparaison avec la main à la pâte pour l'expérimentation scientifique, puisque ça touche le même public, on est tout content en France quand on fait un colloque et qu'on dit, voilà, la main à la pâte, c'est formidable. Moi, j'en ai entendu parler la première fois en Hongrie par un Finlandais, vous voyez. Sauf que si on disait maintenant combien d'enfants du primaire ont réellement eu la possibilité d'expérimenter dans le domaine scientifique ce que Pierre Léna, notre prix Nobel, a présenté d'ailleurs ma demande à plusieurs reprises, mais avait donc été le promoteur de cette idée. Hein. Eh bien, là, on serait très déçus parce qu'évidemment, les pourcentages sont extrêmement faibles. Mmh. Et pour l'éducation financière, c'est pareil. Si on ajoute, moi, je trouve tout à fait remarquable ce que fait Finance pour tous et Madame Nicole Marcel. C'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais si vous voulez, le délai pour sensibiliser les enseignants et surtout les parents, parce que les parents français, dans une enquête du Figaro d'il y a 2 ans, un sondage, il y avait 80% des Français demandant une formation à l'école. Enfin, regrettant, si vous voulez, si on veut être plus précis, regrettant de ne pas avoir eu de formation.
Bon, l'initiative des associations, ça ne suffit plus. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut intégrer ça dans les programmes scolaires?
Voilà. Alors, comme le ministère semble un peu réfractaire, enfin, il y a quand même un comité national là, qui s'est mis en place. Madame Nicole Marcel en fait partie, elle pourra en parler. Je crois que c'est à la demande de Pierre Moscovici qu'il y avait eu enfin une décision de prise pour qu'il y ait une stratégie nationale. Mais vous connaissez la France. Entre le moment où on décide de faire un comité, que certains appellent Théodule, depuis De Gaulle, et le moment où on voit vraiment apparaître, si vous avez des enfants de cet âge-là, vous allez attendre.
C'est la génération d'après qui en profitera, quoi. Oui.
Voilà. Alors, si vous voulez, la stratégie nationale, évidemment, il en faut une. Évidemment, il faut s'appuyer sur le travail que font ces associations, qui est remarquable et qui est tout à fait dans la ligne de ce que font les autres pays. Pour en venir aux autres pays, donc, effectivement, il faut quand même regarder tout ce travail qui est fait par l'OCDE depuis 3-4 ans, là, de manière intensive, et qui nous montre exactement où nous sommes. Donc, si vous voulez, les Allemands, comme vous le disiez, ont eu le courage en 2000, et j'ai dirigé un lycée allemand. Donc je sais très bien qu'ils avaient un retard phénoménal par rapport à nous-mêmes. Vous vous rendez compte qu'en 85, on avait les premiers actes de décentralisation et l'Allemagne en 95 n'avait rien de tout ça. Donc ils ont eu un réel choc et ils ont pris le taureau par les cornes, comme on dit. Tandis que nous, là, nous allons continuer à dire que oui, bien tout ça. Alors Vincent Rayon a tout simplement réglé le problème en supprimant la participation des élèves français en 2015.
Au classement, au fameux classement PISA. Alors on va continuer à en parler dans un instant avec vous, Nelly Gay, consultante internationale, ancienne chef d'établissement. Vous faites la promotion de l'introduction de l'éducation financière à l'école, de même que Pascal Nicolo Marcel, délégué général de l'association La Finance pour tous. Dans un instant, on va donner la parole à Marine Roussillon, responsable du réseau école du PSF. Est-ce que véritablement l'éducation financière doit intégrer le corpus de ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos enfants dans les écoles? On lui posera la question. Vous êtes sur Sud Radio, Apprendre et Comprendre, le grand référendum. Je vous rappelle la question du jour. Faut-il enseigner l'économie et la finance à l'école? Vous votez sur sudradio.fr. Le 0826 300 300, 15 centimes la minute pour intervenir à l'antenne. À tout de suite.
Sud Radio,
Dimitri Pavlenko,
le grand référendum.
Le grand référendum Sud Radio, Apprendre et Comprendre. Est-ce qu'il faut enseigner l'économie et la finance à l'école? On en parle ce matin avec Pascal Nicolo Marcel de l'association La Finance pour tous, Nelly Gay, consultante internationale, ancienne chef d'établissement, et Marine Roussillon, responsable du réseau école du Parti communiste. Marine Roussillon, je vous lis déjà ce premier commentaire qui nous est laissé par Avocat du Diable sur sudradio.fr. Commençons déjà à apprendre correctement les matières indispensables. Ensuite, on verra le superflu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'éducation financière fasse partie des enseignements superflus à l'école?
Non, je ne pense pas que ce soit superflu. Je suis d'accord avec les autres intervenants pour dire qu'il y a besoin d'avoir une culture économique, je dirais économique plutôt que financière, pour rester dans une discipline construite historiquement, etc. Il y a besoin d'une culture économique pour être un citoyen dans la société de demain. Maintenant, il faut peut-être s'entendre sur ce qu'on entend par économie. Est-ce qu'il s'agit d'adapter les enfants au capitalisme financier, de leur apprendre comment gérer son argent de poche, quels sont les bons produits d'épargne? Ça me semble une erreur, parce qu'au rythme où vont les choses, on ne sait pas bien où en sera le capitalisme financier quand nos enfants auront fini leur scolarité, et je ne suis pas bien sûre que savoir gérer leurs produits d'épargne leur sera bien utile après un énième crack des banques.
C'est vrai qu'il y a ce soupçon qui est... que beaucoup ressentent, que ces tentatives d'introduire l'éducation financière à l'école, eh bien, c'est une tentative du marché, de l'entreprise, de comment dire, mettre la main sur l'éducation de nos enfants. Vous le ressentez comme cela, comme Marine Roussillon, comme une tentative d'accaparement, finalement, de l'éducation par le marché, par les entreprises?
Je ne pense pas que ça soit nécessairement cela, mais en tout cas, il faut être très clair. Quand on dit qu'il faut enseigner l'économie à l'école, est-ce qu'il s'agit d'enseigner un catéchisme néolibéral en sachant où ça nous mène aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'enseigner un autre catéchisme ? Moi, je ne suis pas non plus, et le Parti communiste n'est pas non plus pour qu'on enseigne un catéchisme marxiste à l'école. Mmh. Ou est-ce qu'on essaye de montrer comment le savoir sur le système économique se construit dans des débats, dans de la contradiction à partir de problèmes de société ? Mmh. Et ça, c'est des débats qui existent déjà sur les programmes du lycée. Si vous regardez le programme de sciences économiques et sociales du lycée qui a été mis en place en 2010, les professeurs, les universitaires, les chercheurs ont réagi très vivement contre des programmes qu'ils ont ressentis comme une façon d'imposer une doctrine néolibérale, de mettre dehors un certain nombre d'autres théories, etc.
Mais alors les enseignants, qui sont eux-mêmes souvent bien mal formés quand même à l'économie, la finance, alors quand on dit la finance, on peut parler plutôt d'éducation financière, sont-ils les mieux placés pour juger de la pertinence d'introduire cela dans les programmes ? Juste une contradiction également quand même, on note quand même que un tiers des lycéens envisagent un jour de monter une entreprise dans leur vie, mais en même temps, quand on constate l'état de leurs connaissances et de leurs compétences sur l'économie, l'entreprise, la finance, on constate que bien souvent, ils ont une culture quand même relativement faible en la matière. Aujourd'hui, ça n'est vraiment pas, ça ne fait pas partie des choses que l'on enseigne à l'école, Marine Roussillon.
Alors, au lycée, si, hein, en seconde, ils sont tous maintenant obligés d'avoir soit un cours de sciences économiques et sociales, soit un cours d'économie-gestion. Donc, ils ont quand même une découverte, disons, de ces choses-là. Après, je suis tout à fait d'accord que ça arrive tard. Maintenant, il faut regarder quel est l'état de l'enseignement en primaire et au collège. Il y a besoin de culture économique, on le disait, mais il y a aussi besoin de culture scientifique pour être un citoyen éclairé aujourd'hui. Il y a aussi besoin d'une culture informatique, technologique. Est-ce que l'école primaire peut enseigner la finance, le code informatique, à lire, à écrire et à compter, comme on le disait, à cliquer, et puis aussi la culture artistique, et puis aussi le sport, etc. etc. Je pense qu'elle le peut, à vrai dire, mais pas dans l'état actuel.
Dans l'état actuel et dans les formes actuelles également, Marine Roussillon. Pour ce qui est de l'introduction de l'éducation financière, par exemple, bien souvent, quand on est au collège, on se pose la question, mais mon Dieu, mais ça sert à quoi les maths ? Pourquoi on m'apprend le théorème de Pythagore ? On a l'impression d'un enseignement comme ça, hors sol, déconnecté de la réalité. Et bien souvent, la question de l'utilité de ce savoir, les jeunes se la posent et les enseignants ne sont pas toujours en mesure de leur donner une réponse satisfaisante, précisément. Les outils que propose aujourd'hui l'éducation financière permettraient peut-être de rendre les choses un peu plus concrètes également, avec cet intérêt pédagogique de montrer que ce qu'on apprend en maths, ça sert aussi dans la vraie vie, quoi, en quelque sorte.
Oui, mais est-ce que l'école est là pour ça ? Est-ce que l'école est là pour apprendre aux enfants ce qui va leur être utile pour être bien adapté à la société ?
Je vous pose la question, Marine Roussillon, précisément. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense qu'on en tout cas nous, au Parti communiste, l'idée qu'on a, c'est que l'école, elle est là pour libérer les enfants. C'est-à-dire non seulement leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils vivent, mais de le comprendre pour agir sur lui. Donc, éduquer à la finance, pourquoi pas, à condition de leur donner les moyens non seulement de comprendre, pas juste d'appliquer, voyez, de comprendre pour changer, pour modifier. On est dans un système qui marche quand même relativement mal. Je crois que la crise qu'on traverse suffit à le prouver. Et on a besoin que les citoyens de demain soient en capacité de le changer. Donc pourquoi pas une éducation à la finance, à condition qu'elle ne soit pas là pour leur apprendre à être de bons petits consommateurs de produits financiers éclairés, mais qu'elle soit bien là pour leur apprendre à être des citoyens qui sont prêts à prendre le pouvoir sur la finance et à l'orienter de manière à faire progresser la société.
Alors, vraie question, ça, qu'est-ce qu'on met dans derrière le mot d'éducation financière ? Qu'apprendrait-on à nos enfants, précisément, lorsqu'on aborde ce chapitre ? Que leur enseignerait-on également sur l'économie si on le faisait dès l'âge de 5 ans, comme Nelly Gay ou Pascal Nicolas Marcel le souhaiteraient ? On continue à en parler dans un petit instant sur le grand référendum.
Sud Radio.
9h-11h.
Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin.
Le grand référendum.
Dimitri Pavlenko.
Faut-il enseigner l'économie, la finance à l'école ? On en parle ce matin dans le grand référendum avec Marine Roussillon, responsable du réseau école du Parti communiste, Nelly Gay, consultante internationale et ancienne chef d'établissement, et Pascal Nicolas Marcel, délégué général de l'association La Finance pour tous. Pascal Nicolas Marcel, précisément, la question qui se pose très concrètement, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'éducation financière ? Que contiennent ces kits que vous proposez de mettre à disposition des enseignants, et ce, dès l'école primaire ? Concrètement, de quoi s'agit-il ?
Alors, je voudrais d'abord juste dire deux, trois mots sur la notion de concret. Moi, je crois, contrairement apparemment à ce que dit Marine Roussillon, mais peut-être qu'elle va démentir l'interprétation que j'ai faite de ses propos, je crois que l'aspect concret, ancrer les savoirs dans la réalité concrète, c'est très important pour que les élèves se l'accaparent et se sentent concernés. Donc, ce que nous faisons, nous, dans nos kits pédagogiques, c'est que nous pénétrons au travers des programmes scolaires. Nous ne cherchons pas, même si, bon, idéalement, on pourrait créer une énième discipline, mais c'est pas ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons, au travers des disciplines existantes, à illustrer par des exemples de la vie quotidienne des notions qui sont de toute façon à apprendre. Dans les programmes du primaire, il y a des choses sur l'euro, donc nous expliquons ce que c'est que l'euro, d'où il vient. Enfin, évidemment, on a deux pages dans un petit cahier, dans un petit kit pédagogique, on va pas aller très très loin, mais on replace l'euro dans un contexte historique, on explique d'où ça vient, combien de pays ont l'euro, combien en auront demain, et un tout petit peu les enjeux. Bon, on ne débat pas sur faut-il ou non sortir de l'euro, c'est quand même pas le sujet dont on peut débattre au primaire. Mais enfin, on utilise cette notion, ces savoirs, pour aller plus loin. Et évidemment, on reste pas dans l'abstraction. On peut très bien à cette occasion montrer des billets, des pièces, expliquer la différence. Alors l'euro c'est un exemple, mais on peut faire de l'anglais, on peut faire de l'éducation financière en faisant aussi de l'anglais, on peut faire du français, on peut faire des dictées, on peut faire... Donc on utilise les savoirs classiques et on donne des exemples appliqués à la vie quotidienne.
Alors, par exemple, si je regarde dans les programmes que vous avez établis, Pascal, Nicolas, Marcel, vous êtes allé...
Nous n'établissons pas les programmes.
Les kits pédagogiques, restons modestes. Voilà. Vous êtes allé regarder ce qui se fait à l'étranger. Quand on regarde, par exemple, le contenu du programme national d'éducation financière qu'a mis en place le Royaume-Uni, différentes séquences pédagogiques comme, par exemple, construire un projet de vacances, un module de mathématiques sur le thème acheter ou louer et un module sur le crédit et les taux d'intérêt. On a quand même l'impression que c'est la formation du futur consommateur qui est en jeu derrière ces modules quand même très concrets, très pratiques.
Bon, alors c'est le reproche qui est généralement adressé, que certains adressent à l'éducation financière. Ce serait une espèce d'utilisation par les banques, une espèce d'entrisme des banques et du capitalisme en général dans les écoles. Mais il faut savoir que concrètement, les élèves, les enfants sont confrontés à des choix de ce type. Ils vont sur Internet, on leur propose une super promo pour un crédit pas cher. Ils se demandent pourquoi leurs parents rechignent à prendre un crédit à 2%. Mmh. Bon, alors nous, on leur explique que le 2% affiché, c'est pour une durée très courte, c'est pour et à condition de mettre un gros paquet sur la table. Enfin, on essaye d'en faire justement à l'avenir des consommateurs éclairés pour qu'ils se fassent pas avoir entre guillemets comme leurs parents ont pu le faire. Donc je comprends pas du tout cette critique. Enfin, je la connais. Mais je suis pas du tout d'accord avec cette critique qui consisterait à dire que c'est pour faire avaler le système dans lequel on est. Bien sûr qu'on explique un système. Bon, on n'est pas révolutionnaire de ce point de vue-là. Bon, mais on explique un système pour essayer de rétablir l'égalité entre d'un côté les professionnels, les banquiers qui savent, qui ont une supériorité de fait et qui l'auront toujours, mais essayer de faire en sorte que les consommateurs se trouvent mieux armés. Et puis on fait pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi un peu de culture générale. On a fait par exemple un jeu qui s'appelle Super Euro, qui est super sympa, qui s'adresse aux élèves entre 8 et 12 ans, donc c'est la fin du primaire, le début du secondaire, et c'est un jeu dans lequel c'est un jeu de quiz, parce que la plupart des jeux sont bâtis là-dessus, et il y a des questions de tout type, il y a des questions de maths, on apprend à compter. Bon, ben voilà, c'est pour nous faire des maths, c'est un tout petit peu faire de l'éducation financière, parce que les maths, c'est pas juste de l'abstraction, ça peut servir dans la vie de tous les jours. Et si les élèves comprenaient très jeunes que ça peut servir, peut-être que ça ne changerait rien aux bons élèves. Les bons élèves, de toute façon, ils sont bons en maths et ils aiment ça pour le jeu. Mais tous les autres, les 80 ou 90% des élèves qui stressent quand on leur parle de mathématiques, ils comprendraient que pour calculer, pour faire un compte de résultat, il y a un moment besoin de faire des additions, des soustractions et des divisions. Et pour faire un business plan, c'est la même chose. Et donc, peut-être que pour monter leur salon de coiffure, monter leur business internet, ils auront besoin de ces outils. Donc, autant les leur enseigner très vite. Alors moi, je suis pas spécialement pour commencer à 5 ans. Bon, on peut faire des petites choses.
Enfin, l'enseignement en primaire.
Mais le primaire est un bon endroit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul enseignant et que donc on n'a pas cette difficulté qui consiste à trouver l'enseignant, la discipline qui va pouvoir enseigner ce truc-là qui en fait répond pas au canon habituel. Et donc voilà, c'est une bonne raison pour ces raisons-là. C'est pas parce qu'on peut faire plus de matraquage.
Oui, Marine Roussillon, vous comprenez ce que vient d'expliquer Pascal Nicolas Marcel ? C'est pas forcément une tentative comme ça d'intrusion finalement des banques dans le système éducatif. Vous dites il faut rester prudent quand même néanmoins.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je pense que j'ai très bien entendu ce qu'a dit Pascal Nicolas Marcel et je crois qu'on partage un objectif commun qui est la question de l'égalité, de mettre les enfants à égalité face à un système qui est inégalitaire. Voilà, je crois que là, on est tout à fait d'accord. Maintenant, je ne pense pas que l'introduction de ce type d'enseignement sous cette forme-là permette de mettre les enfants à égalité. Pourquoi ? Parce que d'abord, toutes les études de chercheurs en sciences de l'éducation montrent bien que la difficulté scolaire dont elle parlait, notamment la difficulté en maths, ne vient pas d'un manque de motivation. Ça n'est pas que les enfants se demandent à quoi ça sert. C'est pas ça qui les met en échec. Ce qui les met en échec,
ça contribue quand même
entre leur culture familiale et la culture scolaire. L'écart entre les codes de l'école et les codes de la famille.
Oui.
De ce point de vue-là, ancrer les choses dans la réalité concrète, ça peut être une très bonne chose, comme elle le dit. Mais quelle réalité concrète ? La réalité concrète du petit épargnant n'est pas la réalité concrète de l'ensemble des familles, des enfants. Donc attention à ne pas, à travers des exemples généralisés comme ça, exclure une partie des élèves encore plus de l'enseignement.
Et accroître les inégalités qu'on reproche à l'école française de générer. Dans un instant, on va demander à Nelly Guay justement ce qu'elle pense de tout ce qui vient d'être dit. Ses propositions également pour eh bien aussi introduire d'autres choses à l'école, parce que l'éducation financière, on en a beaucoup parlé, mais ce n'est pas le seul reproche fait aujourd'hui à notre système éducatif, dont on dit que par exemple, eh bien, l'informatique, les langues étrangères n'ont pas la place qu'elles devraient occuper. On va en parler dans un instant dans le grand référendum. Je vous rappelle la question du jour, faut-il enseigner l'économie, la finance à l'école ? Vous votez sur sudradio.fr et vous nous appelez pour intervenir à l'antenne, nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300, 15 centimes la minute. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant.
Sud Radio,
Dimitri Pavlenko,
le grand référendum.
Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. On parle du contenu des programmes scolaires. Est-ce qu'il faut enseigner l'économie et la finance à l'école ? Et si oui, à partir de quel âge ? Peut-être dès l'école primaire ? C'est eh bien, précisément ce que pensent certains de nos invités. Nelly Guay, notamment consultante internationale, ancienne chef d'établissement. Nelly Guay, vous plaidez donc pour l'introduction de cette éducation financière dès l'école primaire, car les autres le font, pourquoi pas nous, effectivement ? Mais vous dites, les défis de l'école de demain, ça n'est pas que cela. Il y a aussi eh bien, la révolution informatique. L'école, aujourd'hui, en tient très peu compte. L'enseignement des langues étrangères. Il y a tout un tas de choses qui dysfonctionnent au sein de l'éducation nationale, qui vit comme en vase clos par rapport aux évolutions de la société moderne. Nelly Guay,
vous êtes... Tout à fait. Quand vous dites « pourquoi pas nous ?», eh bien, c'est une question que je pose depuis de longues années. Mais l'échange qu'on vient d'entendre précise la situation. Tant qu'on en est à parler de conflit d'intérêts, on n'avance pas. Je reprends mon exemple de la main à la pâte, si vous voulez. À l'époque, je faisais partie d'un groupe interministériel au CODIS, là, à Bercy, où il y avait donc les 40 partenaires du monde de l'entreprise et des associations travaillant sur les relations école-entreprise, puisque c'est bien de ça dont on doit parler aussi. À l'époque, donc, j'expliquais ce que font les Néerlandais, les Anglais, les Allemands, c'est-à-dire des fondations publiques privées. Il ne s'agit pas d'envoyer un ingénieur de chez Siemens faire un cours d'électricité. Hein. Il s'agit d'avoir des fondations, et pour l'éducation financière, ce sera pareil, publiques-privées. Je connais des assurances et des banques françaises qui travaillent sur ces sujets. On ne va pas les faire apparaître comme telles. Elles doivent apparaître comme apporteurs de compétences. C'est tout. Alors, le discours qu'on vient d'entendre tourne autour souvent de la connaissance et de la culture.
Apporteurs de constance, vous dites, Nelly Guay, vous dites apporteurs. Vous dites les entreprises doivent être apporteurs de constance.
De compétence.
De compétence, d'accord. Je vous avais mal
c'est
entendu.
Le mot qu'on n'a toujours pas entendu, là, mais c'est exactement ce que Pascal Miquelon-Marcel a décrit. On est les seuls à tout le temps mettre en avant la connaissance, la culture. Pour revenir à ce socle européen de 2005, qui a été mis en place en 2007, et sur lequel on devrait encore travailler, qui a été modifié récemment, mais pas du tout dans le bon sens, on avait une amorce de virage européen, c'est le titre du livre que j'ai publié cette année, Virage européen ou Mirage républicain. Quand j'entends Marine Roussillon, si vous voulez, on est dans le mirage républicain pour moi. Hein, donc quand on parle de l'économie de marché en France à partir de la seconde, les parents d'élèves savent très bien de quoi on parle, c'est-à-dire que le chef d'entreprise est présenté de manière, bon, c'est négative, la mondialisation aussi, le dialogue Nord-Sud est complètement biaisé, et la destruction créatrice, c'est-à-dire les fermetures d'usines qui peuvent éventuellement s'expliquer pour tout un chacun, ne voit aucune raison d'être, etc. Donc, si vous voulez, on a déjà la situation que Marine Roussillon souhaite avoir. Hein. Il faut quand même que les parents sachent qu'Alternative économique, qui faisait partie du CODIS à l'époque 2007, a été le grand vainqueur de la réforme du lycée en 2010, puisque tous les élèves ont maintenant une option économie, mais pas du tout ce que j'entends moi par la présence de l'entreprise à l'école. Mmh. Alors pour en revenir à l'entrepreneuriat, mot tabou en France, hein, faut absolument pas l'utiliser, ça avait été traduit en 2007 par initiative et autonomie, surtout pas d'entreprise. Effectivement, moi je pense qu'il est vraiment grand temps pour les communes en France, grâce aux 3 heures de rythme scolaire, de s'emparer du sujet, parce que comme vous l'avez très bien dit, il s'agit pas uniquement de la finance, il s'agit de toutes ces compétences complètement indispensables dans le monde du 21e siècle, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la science, la technologie. On parle du coding là, depuis quelques mois. Bon, bien évidemment...
Le coding, c'est le codage informatique, hein, je précise.
Le codage, oui. Toutes les personnes qui interviendront, donc, à terme, bien sûr, les enseignants, à moyen terme, des formateurs, des professionnels, bien évidemment, tout le monde doit avoir accès à la langue anglaise, mm-hmm. à une langue de communication. C'est évident, nos élèves sont toujours... On ne parle plus des résultats, il vaut mieux ne plus en parler. Mais au niveau des compétences linguistiques, tout le monde sait où on en est. C'est dramatique aussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, les petits Anglais, les Néerlandais, en fait, tous ceux qui nous entourent, oui. et je viens d'être invité à Shanghai par un pouvoir communiste, si Mme Roussillon veut être intéressée, pour présenter...
on pourra faire un débat sur la Chine une autre fois, mais néanmoins...
Non, mais je veux parler des propositions oui. européennes que j'ai présentées, si vous voulez, qui tiennent en 5.
Attendez, Nelly Gay, vous les présenterez dans un petit instant, je voudrais faire réagir justement Marine Roussillon à ce que vous venez de dire. C'est les compétences, former les enfants à des compétences plutôt qu'à des savoirs et des connaissances. Là-dessus, vous n'êtes absolument pas d'accord, Marine Roussillon.
Absolument pas d'accord, parce que je ne suis pas d'accord avec la distinction. C'est-à-dire, enfin, là aussi, les dernières études, notamment à partir des enquêtes PISA, montrent que les compétences ne sont réellement transférables d'une discipline à l'autre, etc., qu'à condition d'être accrochées à des savoirs. Les compétences sont des savoirs mis en action.
Bien sûr.
Donc, on ne peut pas enseigner des compétences de manière déconnectée. Et c'est bien le problème du socle de 2005 que Nelly Gay met en avant là. Le socle européen de 2005, c'est quoi ? C'est une liste de compétences complètement déconnectées des savoirs mmh. et une liste de compétences qui n'est pas émancipatrice, c'est-à-dire qui transforme nos futurs élèves en bons exécutants de consignes, si on veut, mais pas du tout en créateurs de savoirs, qui ne les met pas en capacité ni d'agir ni de construire. Donc mmh. on est en désaccord, effectivement. Moi, le socle européen de 2005, je suis très contente qu'il ait été abandonné. Je suis très contente des évolutions récentes,
oui.
même si je regrette que nous ayons toujours un socle distinct des programmes et donc des objectifs différents pour l'ensemble des enfants. Je pense que là-dessus, mmh. tout le monde a parlé d'égalité dans ce petit débat. Je souhaiterais qu'on ait bien les mêmes objectifs pour tous les enfants. Et c'est pour ça que quand Nelly Gay dit « il faut s'emparer de la réforme des rythmes », pour y mettre en quelque sorte les savoirs qui manquent à l'école ou les compétences qui manquent à l'école, je ne suis pas d'accord, parce que ça veut dire que d'une commune à l'autre, les enfants n'auront pas la même éducation.
Et oui, il y a ce risque.
Notre objectif doit être une éducation nationale.
Pascal Miquelon-Marcel, justement, entre Nelly Gay qui nous dit l'entreprise, ça reste un mot tabou à l'école, Marine Roussillon qui nous dit attention, on n'est pas là pour former de futurs travailleurs. À l'école, avant tout, c'est former des individus libres. Vous en pensez quoi, Pascal Miquelon-Marcel? Où doit se situer le curseur, d'après vous, entre ces deux points de vue?
Alors, il faudrait que je sois la femme de la synthèse. C'est plus très à la mode en ce moment. Mais
non,
bon.
Mais est-ce que c'est votre position, justement, la synthèse entre ces deux points de vue?
Oui,
parce que ça
oui,
semble irréconciliable, malheureusement.
Malheureusement, on voit que ce n'est pas toujours très efficace de vouloir faire la synthèse. Donc, ça m'interpelle. Mais c'est vrai que moi, je suis peut-être trop ambitieuse pour mon sujet, mais j'aimerais pouvoir faire les deux. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille opposer. Je crois qu'on a perdu énormément de temps en France avec cette opposition entre, d'un côté, le monde des enseignants d'économie, de sciences économiques et sociales, mmh. qui s'arc-boutaient sur des savoirs un peu théoriques et généraux parce que, au nom d'une science économique qu'ils avaient mise en place, ce qui a été un grand progrès dans un oui. premier temps, l'introduction des sciences économiques au
mais
lycée,
voilà,
ça a été un énorme progrès.
Et bon, on parle de sciences économiques, on parle d'une vision oui, universitaire de oui, l'économie aussi.
Oui, mais alors le problème, c'est que effectivement, je pense que l'économie, l'enseignement des sciences économiques et sociales, hein, il faut les distinguer de l'économie-gestion, mm-hmm. mais l'enseignement des sciences économiques et sociales à l'école, c'est une manière de tester les élèves qui ensuite feront de l'économie plus tard. Donc oui. c'est qui va voilà.
On, enfin, de l'économie donc, plus tard plutôt.
Oui,
des économies.
Oui. Oui, de l'économie, de la science économique. Ouais. Est-ce que c'est l'antichambre de l'enseignement de la science économique oui. Au niveau universitaire, que ce soit en fac ou à Sciences Po, enfin bon. Donc on sélectionne en quelque sorte les élèves qui auront le goût pour ça, qui seront bons, qui seront doués, etc. Bon, et c'est pas forcément l'objectif n'est pas nécessairement de donner à tous le minimum. C'est la réforme qui a consisté à rendre obligatoire en seconde au mmh. moins l'un des deux enseignements. C'est une heure et demie par semaine, c'est simplement une introduction à ces sujets et c'est pas du tout assez. Et c'est vrai qu'on oppose toujours la science intellectuelle, macroéconomique.
On va prendre 2 heures des 8 heures de philo qu'on a contre et donner 2 heures de plus à l'économie. Bah,
je pense qu'il y a aussi des choses à faire dans
l'enseignement de la philosophie.
Mais bon, c'est pas notre sujet.
Et oui, les philosophes ont été aussi pour certains de grands économistes, rappelons-le.
Oui, bien sûr, il y a une interaction entre les disciplines. Donc nous, quand on dit qu'il faut faire de l'économie au travers des autres disciplines, on milite aussi pour mmh. cette espèce de... Alors ça devrait, normalement, Marine Roussillon devrait apprécier. C'est vraiment du savoir, c'est vraiment prendre de la distance par rapport aux disciplines, mmh. essayer de comprendre le monde qui nous entoure, en sachant qu'il n'est pas fragmenté, pas dans une discipline ou dans une autre. C'est l'ensemble des disciplines mmh. qui concourent à une meilleure compréhension des sujets. Mais le pratique ne doit pas être dévalorisé. L'enseignement pratique, c'est
porte d'entrée vers les sciences économiques, précisément.
Oui, mais les deux ne sont pas isolées l'une de l'autre. Oui. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on apprend à quoi sert une banque ? À quoi sert une banque, c'est quoi ? C'est à quoi sert une banque dans l'économie ? Quelles sont ses fonctions essentielles, etc. Bon, mm-hmm. c'est financer l'économie, ok. Oui. Mais c'est aussi dans la vie quotidienne de tous les jours d'un jeune, c'est gérer l'argent qu'on lui remet. Donc il y a une double fonction à chaque fois. Il y a du pratique et du théorique. Et les deux sont interpénétrés. Nous, on fait des modules, par exemple, pour la seconde, oui. Seconde ou première, des modules pour expliquer à quoi sert la banque. Et on aimerait bien aller dans tous les lycées de France et de Navarre ou d'Andorre, ex-fief de votre radio, pour pouvoir expliquer d'un côté à quoi sert l'économie. À quoi servent par exemple les banques, mais je parle des banques, mais oui. ça pourrait être autre chose, hein, la finance, à quoi ça sert dans le fonctionnement de l'économie et à quoi ça sert dans la vie de tous les jours.
Alors, Elisabeth nous appelle également, bonjour, pour réagir justement à cette question de l'introduction, l'économie de la finance à l'école, bonjour.
Oui, bonjour Dimitri, merci de m'accueillir.
Je vous en prie, alors qu'est-ce que voilà. vous vouliez nous dire
Écoutez, moi je trouve le concept fort intéressant, voilà, parce que moi je trouve que au plus on apprend et au plus eh bien, on est bien en société. Le seul souci qui me gêne, c'est que, voilà, moi je me souviens à une époque, et je vous parle ça il y a 10 ans, on a voulu déjà introduire au travers d'une association, ne serait-ce que l'écriture et la lecture. Mmh. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est bien d'aller dynamiser les jeunes, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, mais simplement je pense qu'il faut quand même, à la base, il faut vraiment travailler en premier, à savoir sur la lecture. Et sur l'écriture, voilà. Après,
mettre l'accent sur les fondamentaux déjà.
Voilà, moi je pense que c'est essentiel, en ce sens qu'il y a beaucoup, énormément de lacunes là-dedans. Alors c'est vrai que c'est fort intéressant, parce que chaque chose nouvelle ou chaque chose existantes et bon à apprendre, ça c'est évident. Moi personnellement, je suis la première, quoi. Mais moi-même issue d'une formation comptable et juridique, et j'ai 50 ans aujourd'hui, je peux vous dire que on n'a pas pu exploiter certaines personnes même que je connais encore, on n'a pas pu déjà exploiter nos connaissances. Parce qu'il y a déjà, après, il y a beaucoup de barrières aussi qui sont mises. Oui. Donc je pense que c'est un ensemble de choses. Mais tout ce qui est, pas nouveauté, parce que je ne peux pas le qualifier comme tel, mais néanmoins, je pense qu'il faut vraiment avoir d'abord les fondamentaux, c'est-à-dire bien introduire que l'enfant...
S'assurer que la base de la lecture, de la compréhension de l'écrit soit là avant peut-être d'envisager l'introduction de ces notions plus complexes que sont l'économie et la finance à l'école. Merci Elisabeth de votre témoignage. On va continuer dans un instant avec les 60 secondes. Restez avec nous. On marque une courte pause. On revient dans un petit instant.
Sud Radio.
Dimitri Pavlenko.
Le grand référendum.
Faut-il enseigner l'économie et la finance à l'école? C'est la question du grand référendum ce matin et Jacqueline nous appelle. Très remontée, Jacqueline, bonjour.
Très remontée par le temps et le soleil. Non, mon remontage, comme vous dites, c'est tout simplement parce que je trouve pas sérieux de parler à des enfants d'économie et enfin, primaire, je parle des enfants en primaire.
C'est trop tôt.
De leur dire déjà, gère tes dépenses, prends ton carnet de chèques, va à la banque. Non, allez, hop, on arrête ça. C'est encore de la com qui m'énerve. Alors moi, je suis pour l'enseignement farouche des langues étrangères à l'école. Nos petits peuvent le faire. À l'étranger, vous avez des gamins, même qui ne sont pas en sixième, qui parlent français dans les pays du Nord, en Italie, à l'étranger. Moi, à 8-9 ans, je parlais déjà anglais, espagnol, merde alors. Alors pourquoi, moi qui ai 84 ans, ai-je pu le faire? Et pourquoi ne le fait-on pas maintenant?
Alors ça, c'est une vraie question que vous posez. Je pense qu'on refera précisément une émission sur l'enseignement des langues à l'école, Jacqueline, parce que vous mettez le doigt aussi sur quelque chose qui est aussi assez inquiétant quand on constate le niveau de langues étrangères des petits Allemands ou même par exemple des petits Espagnols. C'est vrai que l'enseignement des langues en France, ça pose problème. Merci de votre intervention, Jacqueline. On aurait bien aimé vous garder un peu plus longtemps. Pensez à nous appeler un peu plus tôt dans l'émission, comme ça on aura le temps de discuter un petit peu davantage. On va passer aux 60 secondes avec nos trois invités ce matin. 60 secondes à chacun d'entre elles exactement pour nous résumer leur point de vue et répondre à cette question. Est-ce qu'il faut enseigner l'économie et la finance à l'école? Je commence par vous, Nelly Gay, consultante internationale, ancienne chef d'établissement. Faut-il enseigner l'économie et la finance à l'école? Je vous donne 60 secondes pour nous résumer tout ça. C'est à vous.
Il y a 40 ans, on parlait de savoir, savoir-faire et savoir-être. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, les syndicats enseignants socialistes à l'époque proposaient déjà d'approcher le monde de l'éducation de cette manière-là. Or, les syndicats communistes ont triomphé, il faut le savoir, et actuellement nous avons une organisation basée sur les disciplines. Comme vous le voyez, tout le monde lutte pour que ces disciplines soient respectées. Donc, l'éducation financière à l'école, ça permettrait, comme d'autres formes d'expérimentation, de développer chez les enfants la communication, l'esprit de travail, le travail en équipe, les prises de décision, le sens de l'organisation, et la confiance en soi qui évite de multiplier l'ennui, l'anxiété qui conduisent au chômage et à la violence parce que je fais partie des gens qui pensent que notre système nous mène dans l'impasse. Il me reste 2 minutes. L'Europe propose 2-3 termes différents qui sont connaissance, compétence, attitude, mais ça veut dire exactement la même chose que ce que les Français appelaient savoir, savoir-faire, savoir-être, qui a été combattu par les syndicats communistes qui ont le pouvoir en France.
Bon, et ben écoutez, voilà qui est dit. Nelly Gay, consultante internationale, ancienne chef d'établissement. À votre tour, Marine Roussillon, responsable du réseau école du Parti communiste. 60 secondes pour nous dire ce que vous en pensez. Faut-il enseigner l'économie et la finance à l'école? C'est à vous.
Je suis ravie d'apprendre que les syndicats communistes ont le pouvoir en France. Je vais tâcher de m'en souvenir. Je pense qu'il y a besoin d'une culture commune ambitieuse qui inclut des éléments d'économie comme des éléments d'informatique, de langues étrangères, etc. Mais une culture commune qui débouche sur la possibilité d'agir, d'avoir un regard critique sur la société et de la transformer. Et surtout, une culture commune qui soit véritablement pour tous, qui mette les enfants à égalité dans cette capacité d'agir sur le monde. Ce qui veut dire qu'elle doit être enseignée par le service public national d'éducation. Et le problème qu'on n'a pas trop eu le temps d'aborder, c'est qu'aujourd'hui, l'école n'a pas le temps d'enseigner tout ça. Depuis 2008, avec la suppression du samedi matin et la baisse de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, les enfants ont perdu près de 2 ans de scolarité sur l'ensemble de la primaire. Donc je pense qu'il faut rendre à l'éducation nationale la demi-journée de cours perdue et étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, de manière à pouvoir enseigner à tous cette culture commune ambitieuse, incluant des éléments d'économie.
Et oui, tout ça évidemment prend du temps. Pascal Nicolas-Marcel, enfin délégué général de l'association La Finance pour tous. Faut-il enseigner l'économie, la finance à l'école? Je vous laisse 60 secondes pour nous dire tout ça, c'est à vous.
Oui, bah écoutez, vous avez compris que je militais pour faire un peu plus d'éducation financière à l'école, d'éducation économique et financière. Je pense que ça passe à la fois par une légère rénovation, modification des programmes, ou en tout cas par l'ouverture de l'école sur ces questions-là, et par la formation des enseignants eux-mêmes, parce que l'idée n'est pas de créer une discipline nouvelle, mais de s'intégrer dans les disciplines existantes. Et donc, formons les profs de maths, les profs de français et les profs d'économie à d'économie à des problèmes de gestion et pas seulement de l'économie théorique, que je trouve très bien, mais je pense qu'il faut la compléter par des savoirs pratiques qui pourront intéresser les élèves et motiver nos élèves, parce que je pense que c'est donner du sens aux maths, c'est pas quelque chose de complètement indifférent, et c'est très important donner du sens au français de la même manière, sans passer par des choses trop théorique et intellectuel.
Merci Pascal Nicolas-Marcel. Merci à nos invités d'avoir participé ce matin à ce débat du grand référendum. Faut-il enseigner l'économie et la finance à l'école? Un point sur le sondage sur sudradio.fr. Vous êtes 80% à penser que c'est une bonne idée d'intégrer ces enseignements au corpus d'enseignement dès l'école primaire. Merci d'avoir participé au grand référendum. On continue dans un petit instant. On va parler de l'impôt sur la fortune.